Le débat du jour, Philippe Le Catelin.
Demain, à Paris, se tiendra pour la première fois la Team Poker Cup. Cette compétition de poker verra s'affronter 20 équipes de 3 joueurs, avec en jeu, c'est le cas de le dire, le titre de meilleure équipe pro française.
Au poker, vous ne savez jamais quel joueur vous avez en face de vous. Est-il un stratège ou un joueur agressif ?
Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites.
Poker en ligne.
C'est qu'en France, depuis quelques semaines, quelques mois même, le poker est partout, sur des affiches dans la rue, dans les écrans de publicité, à la télé. Il y a une sorte de frénésie, de folie poker. Alors pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce que les gens trouvent de si intéressant, voire de si jouissif à jouer au poker? N'y a-t-il pas des risques à jouer durant des heures sur Internet ou autour d'une table? C'est le débat du jour dans RFI Soir avec nos invités. François Montmirel, joueur de poker depuis 25 ans. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce jeu de cartes et d'ailleurs vous avez créé une maison d'édition spécialisée. Votre premier livre remonte sur le poker, remonte à bien longtemps maintenant, avant que ce soit la mode.
J'étais étudiant en 1984 aux éditions Attier.
Le poker donc. Bruno Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de l'école française de poker, à retrouver en ligne et aussi avec des cours plus classiques dans plusieurs villes de France.
Absolument.
C'est un site gratuit. Ça veut dire que le poker est compliqué et difficile à apprendre ?
Très simple d'abord, mais effectivement très riche et donc très complexe si on veut l'investiguer complètement.
Jean-Philippe Latour, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Philou pour Philippe et Zoff, parce que vous avez été professeur de philosophie jusqu'à l'année dernière et depuis vous êtes devenu professionnel.
Oui, tout à fait. Je suis resté semi-pro, je dirais, pendant un an et demi. Et puis là, j'ai franchi le pas.
Il y a de la philosophie dans le poker ?
Énormément, oui.
On verra ça tout à l'heure. Éric Boina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez fondé Addictel. C'est une plateforme téléphonique de prévention et d'assistance aux joueurs susceptibles de basculer dans l'addiction. Il y a aujourd'hui déjà des drogués du poker ?
Bien sûr, il y a des drogués du poker comme des drogués des autres jeux. Seulement, on n'a pas encore de recul parce que c'est tout à fait nouveau.
Alors une définition peut-être pour commencer tout simplement, hein. Le poker c'est quoi ? C'est un jeu de stratégie ou un jeu de hasard ou un jeu d'argent ? Qui veut répondre ? Bruno Louis ?
Moi je dirais que c'est un...
Pardon, c'est Eric, j'ai coupé la parole. Allez-y Eric Boina.
Moi j'aime bien la définition de Jean Amadou, le fameux chansonnier qui dit que le poker c'est un jeu d'argent qui se pratique avec des cartes.
Bruno Louis ?
Je trouve que cette définition est absolument juste. Il y a deux autres considérations sur le sujet. Est-ce un jeu de hasard ? C'est un sujet un peu compliqué. C'est également un jeu de personnes. C'est-à-dire que c'est un jeu d'argent qui se joue avec des cartes, mais entre personnes. Et donc, c'est également un jeu d'humanité.
Est-ce qu'il faut avoir de la chance pour jouer au poker ?
Bah, la chance a forcément toujours son mot à dire. Dans la mesure où on va travailler sur des statistiques, et lorsque vous jouez au poker pendant 10 minutes, on n'atteint pas la théorie des grands nombres, et donc il y aura une petite part, effectivement, de chance qui se lisse sur le long terme.
François Montmirail, la chance, c'est important. Vous êtes chanceux, vous, pour jouer au poker depuis si longtemps ?
Non, je crois qu'on est tous égaux devant la chance sur le long terme. Au bout de 25 ans, quand même, on peut dire qu'on commence à approcher le long terme, mais je crois que ce qui fait la différence, c'est les compétences.
Je vous posais la question il y a de cela quelques instants, vous pouvez peut-être y répondre. Y a-t-il de la philo dans le poker ? Est-ce que la chance, justement, est une notion philosophique ?
Oui, la chance est une notion philosophique, tout comme le hasard. En fait, le hasard, je le définissais lorsque mes élèves me posaient la question, souvent comme une loi physique qui était mal comprise et qu'on remplaçait, en fait, par la notion de hasard. Je comprends pas ce qui m'arrive, alors je dis que c'est le hasard. Mais en fait, tout est explicable sur le long terme, comme le disait François.
Alors pourquoi tout est explicable ? Parce que quand on de l'extérieur, hein, on voit le jeu, on ramasse des cartes, on n'a aucune prise sur les cartes, même si dans la pub on entendait c'est ce que vous faites des cartes qui est important. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça devient un métier ?
Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous avez, après les premières cartes qui ont été posées, donc le flop, quand vous avez un tirage quinte, vous avez 32% de chance de toucher votre quinte. Pas 31 ni 33, effectivement 32%. Donc le savoir et maîtriser cette statistique vous donne ce qu'on appelle un edge, c'est-à-dire un écart de compétence vis-à-vis des joueurs débutants à la table qui ne vont pas connaître cette statistique, par exemple.
François Montmirail, quand vous levez des cartes, vous réfléchissez à quoi ? Vous faites justement des stats, vous réfléchissez au nombre de cartes qui restent, à celles qui ont pu être distribuées à votre adversaire ?
Arrive un certain un certain cumul, j'allais dire, de pratiques qui fait que tout ça s'est intégré complètement, ça devient des réflexes. Mais sinon, effectivement, la démarche, c'est celle-là. Les calculs se font de manière presque automatique au fur et à mesure qu'on pratique. Et les joueurs pros, ils réagissent très vite. Pourquoi ? Parce que ça se fait d'une manière, comme un petit éclair dans leur esprit, au moment où la nouvelle carte arrive.
Oui, Bruno. Peut-être préciser que le hasard... Les statistiques qu'on est en train d'évoquer, on va essayer de rendre quelque chose d'un peu méthodologique. Là, c'est le professeur de poker qui parle. En fait, vous avez trois lignes mathématiques qu'il faut maîtriser pour jouer au poker. Il y a la première qui est la distribution statistique des cartes. Nous sommes cinq ou six autour de la table. Chacun va recevoir deux cartes. Quelles sont les probabilités de recevoir telle ou telle combinaison dans ces deux cartes? Donc ça, c'est la première statistique, la première ligne mathématique. La deuxième ligne mathématique, c'est que nous allons miser des jetons au milieu de la table en fonction précisément des cartes que nous avons reçues et de ce que nous souhaitons, comme il a été dit précédemment, en faire. Cette deuxième ligne mathématique, c'est des mathématiques financières, si vous voulez. Je dois équilibrer les possibilités de gain, tout l'argent qui est au milieu de la table, avec la probabilité de gagner des cartes, de trouver la fameuse carte qui m'intéresse, qui va me permettre de gagner. Donc ça, c'est une deuxième ligne mathématique qu'il faut savoir gérer. Et il y en a une troisième, et c'est la maîtrise de ces trois lignes qui fait un bon joueur de poker, c'est pour ça que ça demande un peu de technique. La troisième ligne, en fait, c'est à l'intérieur d'une session de jeu, d'une partie, d'un tournoi, il faut aller le plus loin possible avec ses jetons. Il faut donc savoir aussi calculer combien de jetons j'ai par rapport aux autres, par rapport au nombre de jetons dans la partie, etc.
Alors, comme dans n'importe quel jeu, le but, c'est de gagner. La différence avec le poker, c'est qu'on joue plutôt pour gagner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on joue tout simplement au poker? Justement pour gagner sa vie, pour se faire plaisir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus psychologique? La niaque, l'envie de combattre, de gagner, parce qu'il y a toujours cet aspect un peu guerrier hein, quand on voit une table de poker.
Ouais, moi, je définis souvent le poker comme quelque chose d'agonal. Agonal, c'est-à-dire lié au combat, au sens grec du terme. C'est un combat, alors ça peut être un combat effectivement pour gagner de l'argent parce qu'on en a besoin, ça peut être un combat d'ego aussi. C'est-à-dire ce que je veux gagner, c'est gagner le tournoi. À notre niveau, par exemple, il nous arrive de faire des tournois entre nous, ou avec une somme d'argent ridicule, on va miser 50 euros par exemple, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit misé. Et on se bat comme s'il y avait 1 million d'euros à gagner, peu importe.
Éric Buana, donc vous êtes spécialisé dans l'addictologie. Est-ce qu'on recherche dans le poker du stress ou de l'adrénaline?
Je pense que d'abord l'adrénaline, elle est liée au stress très souvent. Je pense qu'on peut pas comparer le poker à un jeu de hasard complet dans le sens où il y a deux grands types de poker. Il y a le cash game où on joue de l'argent, comme si c'était, je dirais pas une roulette parce qu'il y a quand même la technicité, comme viennent de l'expliquer mes petits camarades. Puis après il y a le tournoi. Alors le tournoi, on peut pas s'envoyer très loin en l'air parce que on va rentrer pour 100 euros, pour 150 euros, puis on va passer un ou deux jours. Par contre, il y a le temps. Et le temps passé, ça peut être très important, parce que quand on voit que des jeunes jouent pendant des heures, des journées entières, il faut savoir que le lendemain, ils ne vont pas y aller à la fac ou au travail. Donc effectivement...
Et justement, vous parlez des jeunes. Est-ce qu'on a un portrait robot des joueurs de poker? Je me retourne vers vous, Bruno Louis. Donc vous avez un site internet, hein, l'écoledepoker.fr. Vous avez donc un portrait robot des gens qui viennent apprendre?
Tout à fait, oui. On a un site et un réseau d'écoles nationales, donc à l'école française de poker. Le site se trouve à cette adresse-là. Alors oui, effectivement, le joueur de poker type aujourd'hui, c'est un jeune homme de formation supérieure qui a entre 18 et 35 ans et qui a un niveau social... moyen supérieur.
Voilà. Bah, il faut avoir quand même quelques sous pour miser. Hein.
Voilà, non, puisque surtout, c'est que comme c'est une activité intellectuelle qui demande de la compétence et des efforts, en général, les joueurs de poker ont une formation solide et parfois une formation supérieure.
Donc des jeunes qui sont derrière leur ordi plutôt que sur les bancs de la fac. Que des hommes?
Alors, il y a beaucoup d'hommes, effectivement. Il y a quelques femmes aussi qui sont très représentatives aujourd'hui. Néanmoins, moi, je soulèverais un autre petit sujet dans le sujet. C'est que moi, je me pose toujours la question, mais d'où vient l'argent? Moi, je me rappelle quand j'avais 18 ans ou 20 ans, j'avais pas 2000 euros sur moi le week-end. Et le poker, c'est considéré par la loi comme un jeu de cercle. Avant, dans les cercles, on voyait les gros joueurs avec la bague en or et le cigare. Aujourd'hui, on voit des jeunes. Et c'est plutôt ça qui m'inquiète que l'addiction.
Alors, justement, le gros cigare, l'arrière-salle enfumée, l'image du jeu de tripot. Pourquoi est-ce qu'on redécouvre ce jeu de cartes que nous avons tous appris quand on a été gamin en lisant des Lucky Luke ou en voyant des westerns à la télé?
Parce qu'il est simple. C'est plus le poker du western. C'est un poker avec trois cartes devant, deux cartes dans les mains. Il y a des gosses qui jouent à la cour de récréation aujourd'hui au poker.
Voilà, le poker est extrêmement... Le poker, en fait, le Texas Hold'em, parce qu'il faut lui donner son nom, c'est une variété particulière du poker qui s'appelle le Texas Hold'em. Nous autres, professionnels, on joue à 5 ou 6 variantes différentes. Mais la variante dont on parle ici, c'est le Texas Hold'em. On reçoit 2 cartes. C'est très facile à apprendre, en tout cas à visualiser. C'est extrêmement rapide à pratiquer. Effectivement, c'est pratiqué dans les cuisines américaines et même partout dans le monde, dans les cours d'école. Donc c'est un jeu qui est très facile d'abord. Mais c'est aussi un jeu d'une immense complexité et d'une immense richesse qui se découvre petit à petit. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ça devient une passion et qu'il y a une inertie terrible du poker. C'est pas un phénomène de mode, que ça va durer des années, parce qu'on met des années à découvrir la richesse du jeu.
Oui, tout à fait, oui.
François Montmirel, il y a un quart de siècle, quand vous avez commencé à jouer au poker, le poker n'avait pas cette image-là. Comment vous expliquez cette évolution? Pourquoi est-ce que ça devient aujourd'hui tendance, branchée?
Parce que les gros médias s'en sont emparés. À mon avis. Internet depuis 96-97 seulement, je dirais que le poker ne pouvait pas vraiment se développer de la même manière. Et puis le poker aussi est devenu un spectacle télévisuel, ce qui n'était pas avant.
Ah oui, sur toutes les chaînes de télé françaises maintenant, tard ouais, le soir, fait, chaque chaîne de télé a son émission.
La première émission date de 99, et encore, à l'époque, c'était plus ou moins expérimental. Hein. La vraie émission qui retrace les tournois, c'est 2002-2004. Et à partir de là, le poker est devenu un marché. Avant, c'était pas un marché. Il y avait pas. C'était un jeu, effectivement, jeu d'argent, jeu aussi convivial, dans des parties privées surtout. Et puis à partir de 2003-2004, aux États-Unis, mais en Europe, c'est venu un peu après, plutôt 2005-2006. Là, il y a eu un véritable marché avec des nouveaux métiers qui se sont créés.
Et l'explosion, c'est bien sûr Internet. La possibilité de parier sur Internet, c'est quoi? C'est il y a 2 ans?
Oh non, c'est plus ancien que ça.
Plus ancien que ça.
C'est plus ancien. En fait, il y a eu. Je vais raconter l'anecdote en fait qui a fait exploser le poker et ça démontre le mécanisme que vient d'évoquer François Montmirel. En 2003, un Américain du Middle West, du Minnesota, je crois, je ne sais pas exactement, comptable, mise 40 euros sur une room américaine et gagne un ticket pour aller jouer le championnat du monde. Et il se trouve, ce garçon gagne le championnat du monde, et en gagnant le championnat du monde, il gagne 2,5 millions de dollars. C'est donc une histoire américaine. Les grands réseaux, notamment ABC, s'en sont emparés, et il se trouve qu'en plus, le type avait un nom absolument incroyable, puisqu'il s'appelait réellement, il s'appelle toujours d'ailleurs, Moneymaker.
Oui, j'ai vu Christ ça, Moneymaker, Money je maker. Fais de l'argent, quoi, voilà. Le faiseur de fric.
Eh bien, cette histoire raconte tout, je m'explique. Sur Internet, on peut organiser des parties de poker avec des joueurs partout sur la planète pour des sommes ridicules. On peut donc apprendre à jouer au poker pour quelques centimes, mais uniquement sur Internet, parce qu'en cercle, c'est beaucoup plus cher. Donc, la démocratisation du poker, c'est Internet. Maintenant, ce qui intéresse les joueurs, c'est évidemment d'aller jouer des grosses parties. Alors, la mécanique d'Internet est une mécanique pyramidale. Si vous avez 10 000 joueurs qui jouent pour 1 euro, vous pouvez donner aux 10 premiers un ticket à 1 000 euros, qui eux-mêmes vont leur permettre de participer. C'est pas un tournoi avec 10 000 joueurs à 1 000 euros. Et vous voyez ensuite la pyramide. Et donc, celui qui veut gagne le sommet de la pyramide gagne beaucoup d'argent. Donc, vous avez à la fois l'attrait de la fortune, la compétition sportive, parce que c'est une véritable compétition, et cette possibilité, en partant de très très peu, d'aller très très loin.
Est-ce que le succès du poker en ligne, donc sur Internet, a fait revenir les joueurs dans les cercles, c'est-à-dire autour des tables, ces lieux qui, je le disais tout à l'heure, avaient plutôt une réputation glauque?
Moi, je vois, bien sûr, lorsque le poker était encore illégal en France, parce qu'il est légal depuis le mois de juin, j'avais déjà des contrats avec les grands cercles français, et je voyais autour des tables des jeunes de 18, de 19, de 20 ans, et alors ça a complètement changé l'image que moi j'avais des cercles au départ, où comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les grands joueurs, c'est plus du tout la même chose.
Quelle est la proportion des joueurs qui jouent sur Internet et devant un tapis vert?
On peut appliquer le principe de Pareto, c'est du 80-20, c'est-à-dire que vous avez 80% des joueurs qui jouent online et 20% seulement qui franchissent le pas pour aller en cercle. Encore une fois, ce qui est très important à comprendre, sur Internet, vous jouez pour des centimes, vous ne pouvez pas jouer sérieusement en cercle à moins de quelques dizaines d'euros. Et les vraies parties sont des parties beaucoup plus chères, tout simplement parce qu'il y a un croupier, de la sécurité, un cadre juridique qui est très contraignant pour les cercles, tout ça coûte, et donc les parties en cercle et en casino sont plus coûteuses. Mais faire ses armes sur Internet pour ensuite aller en casino est le mouvement naturel. Les joueurs qui apprennent à jouer online et qui se passionnent pour le jeu, qui veulent devenir des compétiteurs, finiront toujours par aller jouer des grands tournois dans des casinos, dans des cercles.
Nous parlions de l'addiction, puisque vous avez créé une plateforme téléphonique qui reçoit des coups de téléphone de gens qui veulent peut-être arrêter de jouer autant qu'ils le font, enfin en tout cas qui voudraient jouer moins que ce qu'ils le font. Ça veut dire que les gens qui vous appellent, Eric Boana, passent combien d'heures par jour devant Internet?
D'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas une plateforme téléphonique, parce que ça, répondre à quelqu'un qui est addict et en lui disant ben, « qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, je vais t'envoyer une documentation pour que tu arrêtes de jouer », c'est ça une plateforme téléphonique. Non, Addictel, c'est une plateforme de sauvetage où on peut en temps réel se limiter dans les sites.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que n'importe quel joueur, aujourd'hui en France et maintenant dans le monde, peut tout simplement, comme une plateforme comme Mythic ou eBay, là je cite des marques, mais peut aller sur le site et choisir les sites où il joue et se désinscrire d'un seul coup. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui les sites disent « oui, mais on peut se modérer, je peux jouer que 200 euros par semaine ». Ça, c'est la loi. Sauf qu'ils jouent 200 euros par semaine sur 10 sites. C'est-à-dire qu'ils jouent plus que ce qu'ils gagnent. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Donc, ce que fait Addictel, c'est que nous permettons aux joueurs de se désinscrire ou de se limiter sur l'ensemble des plateformes.
Se limiter, c'est-à-dire qu'on s'interdit soi-même, comme on se fait interdire dans les casinos ?
C'est exactement ça. C'est une démarche volontaire. Légalement, on n'a pas le droit d'interdire quelqu'un. Il faut que la personne soit volontaire, se désinscrive. C'est tout un métier, il y a vraiment une réglementation sur ça.
Alors on parle toujours d'excès, on parle de ces jeunes qui passent leur nuit sur Internet. Vous le disiez tout à l'heure, hein, Bruno Louis, puis le matin, ils arrivent à la fac complètement allumés. Ça, c'est de l'addiction, ça, c'est dangereux. Ça,
alors voilà, il y a deux choses. D'abord, il y a une mode du poker aujourd'hui. Ce ne sera peut-être plus une mode dans quelques années, mais aujourd'hui, il y a une vraie mode. Après, il y a le joueur excessif. Le joueur excessif, c'est vous et moi. C'est un jour, je m'envoie un leurre le samedi et je perds 800 euros et vite, je m'arrête, je vais sur un site et je me modère. Par contre, ceux qui appellent Addictel, ce sont des joueurs malades. C'est une vraie maladie. C'est ça qui est beaucoup plus grave. Parce que tout le monde, il suffit de toucher un jeu de cartes ou de se mettre devant une machine à sous, et on va la sentir, l'adrénaline, elle va arriver très très vite. Et là, on sent l'excès et une personne qui est normalement constituée, elle va s'arrêter. Là, nous parlons de joueurs malades et les gens qui appellent Addictel, c'est souvent très très tard. C'est-à-dire là, ils ont perdu leur femme, leur boulot, ils n'ont plus d'argent, ils ont 7 crédits. C'est vraiment, ce sont des cas dramatiques.
Alors justement, Jean-Philippe Latour, vous avez une femme, vous avez 5 enfants, vous étiez prof de philo. Comment vous avez fait pour ne pas mélanger les genres ?
Bah, c'est très simple en fait. Il suffit de gérer ça comme un travail. C'est-à-dire, j'ai un travail, j'ai des revenus.
Vous avez deux comptes en banque ?
Tout à fait, bien sûr. J'ai un compte en banque qui est mon compte familial avec lequel je vais payer mon plombier et mes factures. Et puis j'ai un compte en banque qui est ma bankroll de poker avec de l'argent qui est destiné à faire des tournois.
Et il y a un flux dans un sens unique ?
Oui, tout à fait, puisque le principe de ce qu'on appelle la gestion de bankroll, c'est de jouer toujours à la limite à laquelle on a la possibilité de jouer.
Bruno Louis. Je voudrais intervenir sur ce sujet, puisque le bankroll management, ça fait partie justement de ce que nous enseignons, et ce qui nous rapproche de la mission d'Addictel, nous en tant qu'école. La première possibilité pour se limiter, c'est déjà de savoir, donc de connaître. Il y a des méthodes qui permettent de gérer sa bankroll, c'est-à-dire son budget poker, de telle façon qu'on ne puisse pas se ruiner. Et si on ne respecte pas ces règles prudentielles, là, on est en danger. Et là, effectivement, on peut tomber dans des dérives, des abus, voire effectivement l'addiction. Donc la règle de la bankroll, c'est très simple. Si vous jouez 40e de ce que vous avez dans votre budget et que vous restez sur cette règle-là, bah, vous ne pouvez pas vous ruiner. Alors, mais il faut l'apprendre.
Pour compléter, le poker, il rend personne malade. Une machine à sous, ça rend personne malade. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est pas le jeu qui rend malade. Les gens sont déjà malades avant. Ce sont des gens qui ont une faiblesse, qui ont perdu quelqu'un dans leur famille, qui ont une maladie, qui un jour rencontrent le jeu comme ils auraient pu rencontrer l'alcool. Donc, effectivement, quand on est un opérateur de jeu ou lorsqu'on fait la promotion du poker à travers une école ou autre chose, on doit avoir un rôle citoyen et informer le joueur des dangers, mais ce ne sont pas les responsables.
Je vous approuver, François Montmirail.
C'est ce que je prône dans les livres que j'écris, que je publie, que j'édite depuis 25 ans. Une pratique modérée du jeu.
Mais est-ce que c'est possible? Parce qu'à un moment donné, on est pris dans le jeu, justement. Hein, c'est une expression toute faite. Et on a peut-être envie toujours de se refaire, de se dire que le tour d'après, ça sera mieux.
L'erreur est justement là. C'est-à-dire de se dire, j'ai 2000 euros, je vais jouer des tournois à 20 euros. Quand j'en ai plus que 1000, je joue des tournois à 10 euros. Et si, quand j'ai plus que 1000, je me dis, je vais jouer des tournois à 100 pour me refaire, je me ruine, forcément.
C'est fini. Ça correspond d'ailleurs au cycle de l'addiction. Le grand cycle de l'addiction, ce sont en général des gens qui commencent par gagner. Avec l'excès de confiance qui va derrière, la grosse perte. Et comme ils ont déjà gagné, ils disent, attends, je vais me refaire.
Tout à fait.
Et on tombe.
Alors quand on gagne quoi ? Vous gagnez votre vie raisonnablement ou vous faites fortune en jouant aux cartes ?
Ah ça dépend des niveaux.
Je sais pas, vous, autour de cette table, vous êtes 4. Allez, vous jouez tous les 4 au poker. Comment ça se passe ?
Moi, dans mon cas, je suis semi-pro. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai un job d'un côté. En l'occurrence, je suis éditeur, je publie des livres sur le poker. Mais je joue
à côté, donc, exactement comme philosophe, par exemple, j'ai mes deux comptes parallèles.
Et vous, Jean-Philippe Latour, ça vous a permis d'arrêter l'éducation nationale?
Très rapidement, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je gagnais plus d'argent en prenant mon café qu'en allant travailler.
Éric Bouenard.
Moi, je suis le plus grand bluffeur de tous. C'est moi qui gagne le plus d'argent. En plus, je prends de l'argent aux opérateurs qui me le donnent volontiers, des grosses sommes. Et cet argent, il vient bien du poker.
Merci d'avoir fait vos jeux ce soir dans RFI Soir. Merci à vous tous. Bonne soirée.